Les mystères du Palais Royal, deuxième partie, un fils d'adoption. Chapitre 13, la curiosité de Monsieur Benoît. Il y eut entre le chevalier et moi un silence de quelques minutes, poursuivit Monsieur Benoît. Puis, comme mon visage continuait à affecter la désolation la plus profonde, le jeune homme, touché de voir combien je prenais part à ses douleurs, me tendit la main et serra la mienne en me disant « Je vois, monsieur, que vous êtes un homme de cœur, et je vous remercie profondément de l'intérêt que vous voulez bien me porter. » À cela, je répondis que cet intérêt n'avait rien que de naturel, et que monsieur le chevalier m'obligerait en disposant de moi, de mon temps, de ma bourse, de mon crédit et de mes démarches. « J'accepte vos offres gracieuses, » répliqua le jeune homme en souriant, « et j'en profiterai, excepté cependant de celle de votre bourse, dont je n'ai nul besoin. » Je ne suis pas riche, mais j'ai de quoi vivre, du moins pendant un certain temps, sans recourir à l'aide de personne. J'essayai quelques questions. « Y a-t-il longtemps, monsieur le chevalier, demandai-je, que vous avez eu le malheur de perdre monsieur votre père ?»« Hélas, s'écria-t-il, sa fosse est encore entr'ouverte. » Si j'en juge d'après votre désespoir, ce noble gentilhomme devait être digne de tout l'amour et de tous les regrets d'un fils tel que vous. Ma vie entière ne suffira pas à le pleurer comme il le mérite. Madame votre mère vit encore, sans doute. Non, monsieur, ma mère est morte. Au moins, il vous reste des frères. Je suis fils unique. Quelques parents? Aucun. Comment? Vous êtes seul au monde? Vous l'avez dit, monsieur, oui, je suis seul au monde. Ah, vous devez avoir grand hâte de rejoindre vos amis. Des amis? Je n'en ai pas un. « Quoi? Personne ne vous attend à Paris ?»« Personne. »« Ah, pauvre jeune homme, pauvre jeune homme !» m'écriai-je. Puis je repris aussitôt. « Excusez cette familiarité, monsieur le chevalier. »« Non seulement je l'excuse, mais je vous en sais gré. »« Je tremble que ma curiosité ne vous importune. »« En aucune façon. » »« Alors, monsieur le chevalier, » puisque vous daignez tolérer les questions, peut-être indiscrètes, que me dicte l'intérêt que je ressens pour vous, dites-moi, je vous prie, quel motif vous attire dans notre grande ville? J'avais cru d'abord que vous y veniez rejoindre des parents ou des amis, mais il paraît que je me suis trompée. J'y viens pour y chercher à vivre. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez de l'argent, ce me semble. Un peu. Mais il est indispensable qu'avec cet argent, je me crée un avenir. Ne possédez-vous donc pas les revenus de l'héritage de monsieur votre père? Le chevalier hésita d'abord, puis il me répondit « Tout ce que je possède est dans cette valise. » Et il me montra du geste la petite malle de cuir dont je vous ai parlé. Le chevalier me regarda fixement. À coup sûr, un sentiment de défiance se faisait jour dans son esprit. J'eus peur. Et je me hâtais de continuer. Si je vous demandais cela, monsieur le chevalier, c'était afin de vous donner quelques bons conseils. Je suis vieux, malheureusement pour moi. J'ai beaucoup d'expérience. Je connais Paris, ses bons et ses mauvais côtés, les pièges qu'il cache sous les pas de ceux qui veulent tenter la fortune et les ressources qu'il leur offre. Et peut-être, si j'avais su quel est le chiffre de la somme dont vous pouvez disposer, m'aurait-il été possible de vous engager à faire de cette somme tel ou tel emploi fort avantageux? Mais du moment où ma question vous a paru indiscrète, n'en parlons plus, monsieur le chevalier, n'en parlons plus. Puis je me levai en ajoutant « Si, par hasard, vous aviez besoin de moi, monsieur le chevalier, je n'en serais pas moins à votre service, ainsi que je vous le disais tout à l'heure. Vous iriez rue Grenota, tout bonnement, et vous demanderiez Nicolas Benoît, marchand mercier, et faisant le commerce des laines en gros et en détail, à l'enseigne du Bélier d'argent. Tout le monde vous indiquerait la maison. Ah, nous sommes bien connus dans le quartier Saint-Denis, depuis 300 ans bientôt que nous y vivons, et que nous y commerçons de père en fils. À l'honneur de vous revoir, monsieur le chevalier, à l'honneur de vous revoir. » Je fis un mouvement pour reprendre mon chapeau que j'avais posé sur une chaise en arrivant. Le jeune homme me retint. Je m'y attendais et je me laissais faire avec la plus complaisante bonhomie. Chapitre 14, l'invitation de Monsieur Benoît. Rasseyez-vous, monsieur Benoît, je vous en prie, me dit le chevalier. C'est que je suis un peu pressé, voyez-vous. Je ne vous demande que 5 minutes.
Allons, soit.
Monsieur Benoît, reprit Raoul, vous êtes un homme de parole, n'est-ce pas?
Certes.
Vous m'avez promis un conseil tout à l'heure.
Eh bien?
Eh bien, ce conseil, voulez-vous me le donner?
À quel sujet?
Au sujet de l'emploi de ma petite fortune.
Oh oh!
J'ai là 40 000 livres environ.
40 000 livres?
Oui, en or.
Et c'est tout ce que vous possédez?
À l'exception de quelques bijoux, que je tiens à conserver.
C'est bien peu, n'est-ce pas?
Ce n'est pas beaucoup, mais avec 40 000 livres, on peut cependant entreprendre quelque chose.
Quoi?
Oh, ceci regarde monsieur le chevalier.
Mais puisque je vous supplie de me servir de guide.
C'est si délicat.
Vous avez promis.
Eh bien, soit. Je consens, mais malgré moi.
Vous voulez, n'est-ce pas, vous servir de votre argent, de façon à vivre, si faire se peut, non point dans la richesse, mais dans une honnête aisance.
C'est cela même.
Il y a dans Paris d'honnêtes négociants qui se chargeraient volontiers de faire valoir dans leur commerce ces 40 000 livres et de vous servir un intérêt raisonnable.
Mais moi, demanda le jeune homme, que ferais-je?
Vous mangeriez vos revenus.
Ce serait l'affaire d'une bouchée.
Diable, vous avez donc un bien terrible appétit.
J'ai été élevé dans le luxe, et j'ai conservé des goûts de dépense que l'oisiveté développerait.
C'est juste.
Comment donc faire?
Le négociant qui prendrait vos fonds pourrait, par la même occasion, vous procurer dans sa maison quelque emploi lucratif.
Mon jeune homme fit la moue et haussa imperceptiblement les épaules.
Le commerce, dit-il d'un ton dédaigneux, vous oubliez donc, mon cher monsieur Benoît, que je suis gentilhomme.
Vous avez raison, répondis-je. Cherchons ensemble quelque autre chose.
Oui, cherchons, répondit le jeune homme.
Monsieur le chevalier, demandai-je, n'aviez-vous donc pas vous-même quelques plans, quelques projets?
J'en avais certainement, mais à peine ébauchés, et dès qu'elle peut être, la réalisation est impossible.
Dites toujours, du choc des idées jaillir à la lumière.
Eh bien, je songeais...
À quoi?
À acheter une compagnie.
Vous avez donc du goût pour l'état militaire?
Plus pour celui-là que pour tout autre.
Et d'ailleurs, ai-je le choix?
C'est vrai, c'est parfaitement vrai.
Je parus réfléchir profondément à ce que venait de me dire M. de la Tremblay. Dans le fait, je combinais un plan que je vais bientôt vous soumettre et qui, je n'en doute pas, recevra votre approbation.
Au bout d'une ou deux minutes, je repris.
Ma foi, monsieur le chevalier, je crois qu'il y a plus de bon sens dans votre jeune tête que dans ma vieille cervelle. Votre idée est excellente, et vous songez à prendre le seul bon parti.
Ainsi, vous m'approuvez?
De tout point.
Cette compagnie que j'ambitionne, trouverai-je à l'acheter?
Avec de l'argent, on trouve tout ce qu'on veut.
Cela me coûtera-t-il bien cher?
Oh, vos 40 000 francs y passeront, ou peu s'en faut.
J'ai même bien peur que vous ne soyez forcé d'entamer, pour subvenir aux dépenses de votre équipement, les bijoux dont vous me parliez tout à l'heure et auxquels vous semblez tenir beaucoup.
J'y tiens parce qu'ils me viennent de mon père, mais s'il faut en faire le sacrifice, je m'armerai de courage.
Voilà qui est grand et beau, monsieur le chevalier. Mais soyez tranquille, nous tâcherons de sauver ces précieux souvenirs.
Dans tous les cas, je ne négligerai rien pour arriver à ce but.
Pourrez-vous donc me venir en aide?
Parbleu! Ah, cela vous étonne, parce que je ne suis qu'un pauvre bourgeois, qu'un humble marchand de mercerie et de laine en gros et en détail, de me voir manifester la prétention de me mêler de choses militaires et de m'en mêler avec succès.
Il est évident que par moi-même, je ne puis absolument rien. Mais mes relations sont nombreuses, et j'ai des amis, de bons amis, qui sont enchantés de se mettre à mes ordres.
En vérité? S'écria mon jeune homme avec enthousiasme.
Mon Dieu, oui. Et tenez, justement, j'y pense. Je tiens ce qu'il vous faut. Et vous pouvez, à partir de ce moment, considérer votre affaire comme à peu près faite. ou du moins en bon train.
Est-ce possible ?
Rien n'est plus possible, je vous assure, et rien n'est plus simple. Un de mes anciens et excellents camarades, Tancrède d'Estagnac, est major au régiment de Royal Champagne, qui tient garnison à Valenciennes. Ce brave officier se trouve pour le quart d'heure à Paris en congé de semestre. Je vous présenterai à lui quand vous voudrez, et il se fera un véritable plaisir de vous procurer les moyens d'entrer dans son régiment.
« Mais, monsieur, » s'écria de nouveau le naïf chevalier avec un redoublement d'effusion.
« Je ne sais en vérité comment vous témoigner toute ma reconnaissance. »«
Vous ne m'en devez aucune. J'ai été séduit dès le premier abord par votre jeunesse et par la physionomie d'un cavalier tel que vous. Et toutes les fois que vous voudrez bien me faire l'honneur d'user de moi, je me considérerai comme votre obligé. Voyons, quand vous conviendra-t-il que je vous présente à mon ami le major ?
Je me mets à vos ordres.
Voulez-vous que ce soit après-demain ?
Je ne demande pas mieux.
Alors, c'est entendu. Je vais écrire deux mots à Tancrède afin de le prévenir.
Où vous retrouverai-je ?
Je viendrai vous prendre.
Où sera le rendez-vous ?
Chez moi, pardieu, dans mon humble logis. Vous verrez ma nièce, qui est, j'ose le dire, une jeune personne accomplie. Nous nous réunirons à l'heure du dîner, et c'est en trinquant joyeusement que nous parlerons d'affaires.
Cher monsieur Benoît, vos offres sont si cordiales que je les accepte sans façon.
Et vous avez raison.
Il se fait tard, je vous quitte. Monsieur le chevalier, à l'honneur de vous revoir.
À bientôt, mon excellent ami.
Un mot encore.
Lequel ?
J'indiquais du doigt la valise, puis j'ajoutais.
Prenez garde à ceci.
Comment ?
Paris est une bien grande ville, monsieur le chevalier. Dans cette ville, il y a beaucoup d'honnêtes gens, sans contredit. Mais je crois, Dieu me pardonne, qu'il y a encore plus de filous. Or, c'est un joli denier que 40 000 livres, et bien propre à tenter les voleurs. Soyez prudent et faites bonne garde.
Ce qui veut dire, n'est-ce pas, que vous me conseillez de veiller sur mon petit trésor.
Jour et nuit.
Je n'y manquerai pas, répondit le chevalier. Et, ajouta-t-il en prenant une paire de magnifiques pistolets et en me les montrant,
voici des compagnons fidèles qui mordent aussi bien qu'ils aboient.
Précaution que je ne saurais trop louer, m'écriai-je.
Mais si vous vous trouviez dans la nécessité de quitter pour un certain temps votre chambre, comment feriez-vous ?
Le cas est prévu. J'ai pour domestique un jeune homme qui m'est tout dévoué. Il attendrait ici mon retour, assis sur cette valise et tenant un pistolet de chaque main.
À diable ! Il ne ferait pas bon vouloir s'enrichir à vos dépens, monsieur le chevalier.
Je ne conseillerais à personne de tenter l'aventure.
Mais ne m'avez-vous pas dit, mon cher monsieur Benoît, que cette hôtellerie était fort tranquille et jouissait d'une excellente réputation ?
Je l'ai dit. Et je le répète, le petit conseil que je me suis permis de vous donner tout à l'heure provenait d'un excès de zèle, et aussi de ce que j'ai pour principe qu'il vaut toujours mieux prévenir un malheur que d'avoir à le déplorer. Et là-dessus, nous prîmes congé l'un de l'autre, le chevalier Raoul et moi, avec un luxe de poignée de main bien fait pour cimenter l'étroite et sincère amitié que nous venions de nous vouer l'un à l'autre.
Voilà ce que j'ai fait, messieurs. Voilà pourquoi je me crois en droit de dire, avec un certain orgueil, comme je ne sais plus quel empereur grec ou romain, je n'ai pas perdu ma journée. Mes chers collègues, qu'en pensez-vous ? C'est à vous que je m'en rapporte.
Ainsi parla monsieur Benoît. Quand il eut achevé, la gentille émeraude bâilla de toute la largeur de sa jolie petite bouche. Le personnage qu'on appelait monsieur le vicomte tint conseil avec le moine, le commissionnaire médaillé, et un ou deux autres des membres de l'association. Ce petit conciliabule dura 2 ou 3 minutes. Les avis étaient exprimés à voix basse. Au bout de ce temps, le vicomte prit la parole.
« Mon cher Benoît, dit-il, la société vous vote une double salve d'applaudissements. Vous avez bien mérité de la patrie. »«
Justice m'est rendue, murmura monsieur Benoît avec l'accent d'un légitime orgueil.
« Nous comprenons à merveille l'ensemble de votre plan, » poursuivit le vicomte.
« Et vous l'approuvez ? » demanda Benoît.
« Oui, seulement il s'agira de nous entendre pour les détails. »«
Ils sont bien simples ?»«
Je ne dis pas non,
Mais il y aura quelque argent à dépenser. Vous êtes notre trésorier, puisez dans la caisse. Comme vous y allez, l'affaire est sûre.
Peut-être, mais il n'y a d'affaires sûres que les affaires faites.
Dame, vous savez le proverbe ?
J'en sais plusieurs.
Il y en a un, entre autres, qui s'accorde plus particulièrement avec notre situation. C'est celui-ci. Qui ne risque rien, n'a rien.
Vous avez raison. D'ailleurs, je vous l'ai dit, l'ensemble est accepté. Discutons les détails.
Très volontiers.
En ce moment, Émeraude interrompit l'entretien.
Je demande la parole, dit-elle.
Pourquoi faire ? Répliqua le vicomte en riant.
Pour un fait personnel.
Fort bien. Émeraude a la parole.
Et j'en use à l'instant même, s'écria la jeune fille.
Octroyez-moi, je vous prie, la permission de m'en aller.
Tu veux nous quitter, méchant enfant ?
J'ai des affaires ce soir, des affaires très importantes.
Quelque rendez-vous, friponne ?
C'est possible, mais ça ne vous regarde pas. Et comme vous n'avez nul besoin de moi, ni pour discuter votre plan, ni pour l'exécuter,
Benoît interrompit la jeune fille.
C'est ce qui vous trompe, dit-il. Nous avons besoin de vous, ma chère Émeraude, et beaucoup.
Il me semblait, cependant, qu'il n'y avait pas de rôle de femme dans la comédie que vous préparez.
Ceci me prouve que vous m'avez mal écoutée, ma petite.
C'est possible, je dormais.
Ou je pensais à une autre chose.
Voyons, qu'est-ce que vous avez dit ?
J'ai parlé d'une nièce à moi, que je devais présenter après-demain au chevalier Raoul de la Tremblay.
Eh bien ?
Eh bien, cette nièce, mon enfant, qui serait-ce, si ce n'était vous ?
Ah, le vilain homme !
S'écria la jeune fille avec une charmante mauvaise humeur et une petite colère très mignonne et très coquette.
Je vous demande un peu quel besoin il avait de parler de sa nièce.
En conséquence, poursuivit Benoît, je m'oppose formellement à ce qu'on accorde à notre gentille Émeraude le congé qu'elle réclame. Son amoureux attendra.
Mon amoureux ? Murmura la jeune fille avec une pruderie ravissante.
J'aurais dû dire « ses amoureux », reprit le premier interlocuteur.
Je me suis trompée, pardon.
Impertinent ! S'écria Émeraude.
Le vicomte intervint.
Benoît a raison, dit-il. Il me paraît opportun que notre chère petite sœur reste avec nous ce soir. N'est-ce pas votre avis, messieurs ?
Oui, 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 répondirent les associés d'une commune voix.
L'arrêt était prononcé. Il fallait obéir. Émeraude fit la moue, mais elle resta. La séance ne fut levée que vers les 2 heures du matin. Nous ne tarderons guère à en connaître le résultat.
Chapitre 15. Le logis de Monsieur Benoît. Le lendemain du jour où se passaient les scènes que nous avons mises sous les yeux de nos lecteurs dans le cours des précédents chapitres, les paisibles habitants de cette partie de la rue Grenetat qui touche à la rue Saint-Denis considéraient avec attention, debout sur le seuil de leur porte, un spectacle qui, selon toute apparence, piquait vivement leur curiosité. Ce spectacle n'avait cependant rien que de bien simple. Voilà en quoi il consistait. Une boutique assez modeste et depuis longtemps inoccupée avait été louée le matin même. Depuis l'aube du jour, une demi-douzaine d'ouvriers travaillaient sans relâche, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de cette boutique. Les uns plaçaient en grande hâte des rayons et des comptoirs qui ressemblaient plus à des décors et à des accessoires de théâtre qu'à de véritables comptoirs et à de véritables rayons, car ils étaient en bois de sapin, excessivement minces, trop fragile pour supporter un poids quelconque et grossièrement peint en couleur de chêne. D'autres, à l'aide d'une haute échelle à 2 battants, plaçaient au-dessus de la principale entrée du magasin un gigantesque tableau dont la surface noire et unie était vierge encore de tout symbole et de toute inscription. Une fois ce tableau posé, 2 peintres arrivèrent. Le premier d'entre eux dessina au milieu de l'enseigne le simulacre d'un bélier splendidement encorné. Ensuite, il recouvrit son esquisse d'une épaisse couche de craie blanche destinée à imiter tant bien que mal les reflets chatoyants de l'argent. Tandis que cet artiste en plein vent mettait la dernière main à son chef-d'œuvre, son collègue ne perdait point non plus son temps. Il traçait les mots suivants en grosses lettres blanches, au-dessus, au-dessous et de chaque côté de l'animal aux longues cornes, au bélier d'argent, Nicolas Benoît et compagnie. Mercerie, laine en gros et en détail. Il se forma alors un groupe compact de curieux dans la rue. Ces curieux étaient d'anciens habitants du quartier. Ils s'interrogeaient les uns les autres. Disait l'un en regardant l'énorme enseigne, « Connaissez-vous ce nom-là, mon compère ?»«
Ma foi, non. Et vous ?»«
Moi non plus.
Et vous ? Pas davantage ?»«
Ah ça, personne ne le connaît donc ici, ce Nicolas Benoît ?»«
Personne ?
D'où vient-il ? »
On ne sait pas.
Que vend-il ?
De la mercerie et des laines. Au moins, son enseigne le dit.
Elle ne sera pas fort solide, son enseigne, par parenthèse.
Je le crois bien. Peinture à la détrempe.
2 jours de pluie et le bélier d'argent s'en ira blanchir le ruisseau.
Ce n'est pas comme la vôtre, papa Cornibert.
En voilà une qui peut se flatter d'être solide.
Ah, dame, c'est qu'aussi je n'ai rien épargné pour qu'elle le soit. Je n'ai point reculé devant la dépense. J'ai tenu à ce que la tentation de Saint-Antoine fût bon teint, et j'en ai eu pour mon argent.
Ça, c'est vrai.
Oui, mais quelle peinture ! Peinture à l'huile, toute couleur fine et de première qualité. La tentation de Saint-Antoine fait l'ornement du quartier depuis 30 ans, et elle est encore fraîche comme le premier jour. Chacun en convient.
Oui, certes.
Je ne sais pas pourquoi, fit quelqu'un. Mais je n'ai pas bonne opinion de ce monsieur Benoît.
Ce doit être un homme de peu.
Un homme de très peu.
Un homme d'excessivement peu.
Un homme de rien.
C'est mon avis.
C'est aussi le mien.
Ah, mes compères, croyez ce que je vous dis. Avant 6 mois, nous verrons une banqueroute dans le quartier. Et cette boutique sera refermée.
Ce n'est pas douteux, et je parierais volontiers un écu de 6 livres contre une pièce de 24 sous.
Ainsi devisaient charitablement les bons bourgeois de la rue Grenetat en face de l'enseigne du bélier d'argent. Le bourgeois de Paris est et sera toujours le même. Monsieur Benoît dirigeait en personne les travaux qu'on faisait pour son compte, et s'il entendait quelques mots de ce qui se disait à son sujet, nous prenons sur nous d'affirmer qu'il ne s'en inquiétait guère. Vers le soir, tout fut terminé. Alors s'arrêtèrent en face de la maison 2 voitures chargées de ballots. Ces ballots étaient de beaux ballots gonflés et ventrus qui semblaient lourds et bourrés d'étoffes. On se mit en devoir de les décharger. 2 hommes robustes pliaient sous le poids de chacun d'eux. Quand tous ces ballots furent rentrés dans la boutique jusqu'au dernier, on ferma les portes, on assujettit les volets par de fortes barres de fer et M. Benoît se trouva seul avec ses 2 aides qui n'était autre que le vicomte et le commissionnaire médaillé. Alors, chacun de nos 3 personnages souleva d'une seule main un de ces ballots si lourds et s'amusa à le faire rebondir comme ces ballots de baudruche avec lesquels jouent les enfants. Sous la toile grossière qui servait d'enveloppe, il n'y avait que des carcasses en osier, fort artistement fabriquées. Il ne fut point difficile de mettre en bon ordre toute cette légère marchandise, puis, cette besogne achevée, les 3 compères se regardèrent en riant.
« Eh bien, mes amis, » dit M. Benoît quand cet accès de joyeuse hilarité se fut un peu calmé, « que pensez-vous de moi maintenant que vous me voyez à l'œuvre ?
Je crois que les premiers actes de notre comédie sont bien conduits, et j'ose me flatter que le dénouement sera satisfaisant. »«
Espérons-le, » répondirent en chœur le vicomte et son compagnon.
« Avez-vous jamais vu, » répondit le premier interlocuteur, « avez-vous jamais vu improviser avec une aussi merveilleuse promptitude, une maison de commerce de l'importance de celle que nous avons fondée aujourd'hui, sous la raison sociale Benoît et compagnie ?
Oh, jamais ! Tu es passé maître !
Excellente maison, du reste, poursuivit Benoît qui se remit à rire. 40 000 livres de bénéfices en 48 heures, dès les débuts des opérations, sans avance de fonds et sans risque d'aucune sorte à courir, je crois que c'est un assez joli commencement.
Oui, certes.
J'ai toujours pensé que j'avais le génie de la spéculation. Demain, je me chargerai de prouver que je me jugeais bien. Maintenant, allons souper. J'achèverai en temps utile les derniers préparatifs.
Les 3 hommes sortirent du magasin, quittèrent la rue Grenetat et se dirigèrent vers la maison de la rue du Geindre où les attendaient leurs 2 autres collègues.
Le lendemain, de très bonne heure, les portes du Bélier d'argent s'ouvrirent de nouveau. Monsieur Benoît procéda à l'installation de quelques meubles dans l'arrière-boutique, qui prit, grâce à ses soins, une apparence assez confortable. Il avait apporté avec lui une boîte d'argenterie, de la vaisselle et quelques paniers d'excellent vin, le tout emprunté au quartier général de la rue du Gindre. Après avoir surveillé tous ces détails, Monsieur Benoît sortit et il alla commander, chez un restaurateur de la place du Châtelet, un dîner somptueux pour 5 personnes. Il enjoignit au chef de cuisine de se surpasser. Il allécha les marmitons par l'appât d'un large pourboire et il recommanda spécialement que ce dîner fût servi à 7 heures du soir bien précise dans l'arrière-boutique du Bélier d'argent. Vers 2 heures, un nouveau personnage descendit d'une chaise à porteurs et entra dans le magasin. Ce personnage était la prétendue nièce de Monsieur Benoît, la charmante Émeraude. Jamais la jeune fille n'avait paru plus jolie que sous son simple costume de bourgeoise. Sa robe de laine brune, admirablement bien taillée, mettait en valeur ses formes élégantes et prêtait à sa tournure dégagée un petit air de pruderie d'un adorable effet. La piquante figure d'Émeraude pétillait de malice et d'esprit. Elle s'efforçait de donner à ses regards une expression ingénue, qu'il n'avait point habituellement, et elle avait l'air d'un joli démon qui se serait déguisé en ange afin de venir tenter quelque cénobite austère. Bref, elle était séduisante à damner un saint. « Bonjour, ma chère nièce, » dit Monsieur Benoît à l'arrivante en l'embrassant sur les deux joues. « Mon Dieu, que vous voilà donc charmante! Vous allez ravager abominablement le cœur de mon jeune chevalier. « Croyez-vous ? » demanda Émeraude avec une coquetterie provocante. « Je ne le crois pas, j'en suis sûre. » « Pauvre jeune homme !» murmura la jeune fille en minaudant. « N'allez-vous pas le plaindre ?»«
Mais, dame !»«
Ma chère enfant, » répondit Monsieur Benoît, « si j'étais à la place du chevalier Raoul, et si vous vouliez m'aimer pendant 2 heures, ou en avoir l'air, ce qui reviendrait au même, je ne regretterais pas les 40 000 livres que ce bonheur m'aurait coûté.
« Oh oh !» fit Émeraude en riant. « Comme vous êtes galant aujourd'hui, monsieur mon oncle !»«
Vous dites cela parce que je suis sincère, mademoiselle ma nièce. »«
Vieux flatteur !»«
Charmant d'incrédule !» Les madrigaux de monsieur Benoît furent interrompus par l'arrivée de 2 ou 3 femmes du quartier que la curiosité poussait et qui, sous prétexte de faire quelques minimes emplettes, venaient visiter le nouveau magasin. Il leur fut répondu que la vente ne commencerait que dans 3 jours, et elles se retirèrent un peu désappointées. Vers 4 heures, M. Benoît laissa son établissement sous la surveillance d'Émeraude et du commissionnaire médaillé, qu'on avait métamorphosé pour la circonstance en garçon de boutique, et il alla faire un peu de toilette. Il revêtit une culotte de nuance marron, un habit couleur tabac d'Espagne avec de larges boutons d'acier, un gilet d'un jaune pâle semé de fleurs rouges, une cravate blanche, des bas chinés blancs et violets et des souliers à boucles d'argent. Ainsi vêtu, rasé de frais et coiffé d'une perruque neuve, M. Benoît s'en alla en sautillant, quérir au boulevard une chaise à porteurs et se fit conduire rue Paradis-Poissonnière à l'auberge de la Toison d'Or.